Salut Marc, salut Smart, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui chemine, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau, du slip et du masque. Chaque semaine, les chroniqueurs de la team catch-up passent au crible tous les shows de la WWE. Bienvenue aujourd'hui dans le monde prodigieux du show bleu de la WWE. Bienvenue à Friday Night SmackDown, à WrestleMania SmackDown, car vous le savez, nous on est en plein dans la WrestleMania Week. C'est le Go Home Show qui va nous emmener samedi avec Stand and Deliver, WrestleMania 1 et dimanche WrestleMania. Tout un week-end énorme. Si vous avez suivi déjà l'antenne de Catch Up, vous avez le Go Home Show de Monday Night Raw déjà en ligne, ainsi qu'une vidéo spéciale preview pronostic de Stand and Deliver et des deux WrestleMania avec moi-même, que vous avez peut-être identifié. Je suis le dinosaure masqué, que dis-je, je suis votre luchasaurus des podcasts, je suis le tonton Chris. Et donc, un tag team partner of the day qui faisait également partie de cette preview de pronostic, l'inusable, l'indétrônable Papy. Salut Papy.
Bonjour tonton, bonjour les petits enfants, comment ça va?
Oh bah ça va, alors t'es chaud bouillant là, prêt à prendre du feu d'artifice plein les mirettes?
Oula, je suis pas tant chaud que ça là, je sors de la sieste, je suis pas super bien chaud, mais bon ça va monter en pression au fur et à mesure de la journée qui avance là.
Alors, le temps que tu te fasses chauffer un petit expresso histoire de faire remonter le rythme cardiaque, eh bien, écoute, sache que ce WrestleMania SmackDown, c'est le 1180e du nom. Ça se passe, bien sûr, à Dallas, Texas, USA. Everything is bigger in Texas, à l'American Airlines Center. Au commentaire, on a Michael Cole et Pat McAfee. Alors, un 1er avril, le SmackDown, c'était pas une blague parce que là, c'était censé pas déconner. On s'attendait à en prendre plein les yeux et ils vont attaquer le show directement avec la André the Giant Memorial Battle Royale. On aura droit à un clip dédié à notre André national où on reverra quelques-uns de ses magnifiques exploits. Alors, il y a un line-up de 20 catcheurs, Papy, Madcap Moss, Akira Tozawa, Apollo Crews, Cédric Alexander, Commander Aziz, Damian Priest, Dolph Ziggler, Drew Gulak, Eric et Ivar, Finn Balor, Jinder Mahal, Shanky, Mansour, R-Truth, Reggie, Robert Roode, Shelton Benjamin, T-Bar et Tommaso Ciampa. On va avoir une battle royale que j'appellerais un service minimum, peuple de catch-up, puisqu'on va avoir droit à 8 minutes de combat. Ça va être expédié assez rapide. Il y aura un peu d'embrouillabini entre, on va dire, surtout les partisans du 24-7, là, R-Truth, Reggie, Tozawa et compagnie. Damian Priest va aller faire un peu illusion, le pauvre qui se retrouve. Alors lui, on parle de descente dans la carte. Le Damian Priest, il se retrouve à éliminer quand même Reggie et R-Truth, entre autres. Mais finalement, au bout du bout de ces 8 minutes, sans grand intérêt, on aura un peu de bagarre entre les géants avec le commandant Aziz et Shanky qui auront quelques interactions. Apollo Crews qui va se faire éliminer lui par les tag teams, parce que l'un des problèmes quand même des Battle Royale là, c'est que on a certainement un peu trop de catcheurs de tag teams et du coup je pense que ça fait perdre un peu en crédibilité cette Battle Royale. Mais bon, finalement, Dolph Ziggler, le champion NXT, qui défendra samedi soir contre Braun Breaker son titre, et bah finalement, avec l'aide de Robert Roode, va pouvoir éliminer Tommaso Ciampa et Madcap Moss. Au bout du bout, éliminera Dolph Ziggler et Robert Roode. Mais le dernier, au bout du bout, ça sera le champion US qui va résister, puisque oui, les amis, Finn Balor est dans la André the Giant Memorial Battle Royale. Et il va quand même aller jusqu'au bout, mais pas suffisamment. C'est donc Madcap Moss qui va éliminer Finn Balor et qui va remporter le trophée géant d'André. Alors bon, moi je pense que André doit un peu se retourner dans sa tombe. Bon, d'un autre côté, on est un peu habitué au vainqueur un peu étrange, on va dire, de cette bataille royale. Donc finalement, celle-ci ne fait pas défaut. Donc mon papy, je ne sais pas ce que tu as pensé de cet opener, mais en tout cas, la parole est à toi.
La parole est à moi, je la prends avec plaisir. Je suis pas étonné du vainqueur. Pas tant que ça, parce qu'en fait finalement c'est un peu dans la lignée de ce qui s'est fait dans le passé avec la André the Giant Battle Royale. C'est pas non plus un truc ultra prestigieux. J'ai pas, hormis le tout début où ils ont voulu le lancer un peu, donc t'avais des gros noms, puis après c'est tout de suite descendu dans la carte et dans le show. L'an dernier c'était Jiuzo, je crois que l'année d'avant c'était pas des Mojo Riley ou un truc comme ça. Enfin c'était Non, il n'y en avait pas eu l'année d'avant, c'est le Covid. Enfin bref.
Ouais, il y avait le Covid, ouais.
Ouais, donc c'est pas, moi j'ai toujours trouvé ça pas trop prestigieux comme truc. C'est un truc de pré-show. Du coup, ça te retrouve dans le pré-show de WrestleMania qui est devenu SmackDown depuis 2 ans. Donc je suis pas trop étonné là-dessus. C'est vrai que par contre, il y a pas trop grand monde. La 20 personnes, je trouve ça un peu light. Pareil, j'ai trouvé ça assez court. Finalement, il y a peu de passages mémorables. Ils ont pas, ouais, ils ont pas non plus trop cherché à comprendre. Et puis va mettre la pause. Bah, c'est mérité pour lui. C'est en fait l'ordre des jeunes Battle Royale, c'est un peu la bataille des seconds couteaux. Et puis parmi ces seconds couteaux, bah Matt Capos, bah plutôt lui que Commander Aziz ou que des mecs ou Chunky ou des mecs qui ont rien fait pour que Boston Boss, que Matt Capos, mine de rien, il aura quand même fait son année, quoi. Donc bravo à lui.
Oui, je suis d'accord avec toi sur le principe que Matt Capmos a fait son année et que pourquoi pas, hein, c'est un titre un peu honorifique, cette bataille royale, et qui, c'est vrai qu'il passe de plus en plus inaperçu. Ouais, c'est presque un peu triste. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que je trouve que c'est pas bien. C'est le match en lui-même, finalement, tu vois, que je trouve
pas
bien.
Le match est pas ouf, c'est ça.
Voilà, tu vois, le match est pas bon, quoi. Et on n'est pas pris par le truc, etc., quoi. Et ça dure 8 minutes, finalement, ça va très vite, hein, quand t'as, avec 20 mecs comme ça, etc., ça passe très vite. Et t'es pas investi, quoi, tu vois, j'étais pas investi dans le match, quoi. Moi allez, j'avais envie de mettre une pièce sur le commandant Aziz, quoi, tu vois. Et puis finalement, j'ai abandonné l'idée, je me suis dit, ouais, non, ils vont pas le filer à un géant. Et puis, voyant Finn Balor résister, je me suis dit, ah bah tiens, ça se trouve, je sais pas, sur un coup de trip, ils vont le donner à Finn Balor. Et puis finalement, c'est Matt Capmos. Alors moi, Matt Capmos, c'est un catcheur qui m'intéresse pas, et du coup, bon... Voilà, bon, c'est quand même la notre petite fierté de Français. On a notre André qui est représenté dans la plus grande compagnie de catch mondiale et qui en est une icône en plus. Et donc, si tu veux, moi, je trouve ça un petit peu tristounet, quoi, que ça soit relégué comme ça et qu'il n'y ait jamais quasiment rien eu de fait autour de ça, parce que remember, le premier vainqueur de cette bataille royale, hein, c'était tout simplement Cesaro.
Voilà, quand on parle de second couteau, bah c'est César le premier vainqueur. Hein. C'est pour mettre raf, ça. C'est gratuit, exactement. Je suis d'accord avec toi, le match aurait pu travailler. En fait, il ne travaille pas. En fait, André John Battle Royale, j'ai l'impression que c'est le cadeau fait au low quart d'heure. Où on dit, voilà, vous aurez votre petit moment, où vous pourrez vous battre. Alors, ça a été déclassé à SmackDown la semaine dernière. L'année dernière, ça m'avait un poil choqué, parce que surtout pour Deuzo, qui a fait une super année aussi, je me dis, oh, c'est un peu dommage pour lui. Après, petit à petit, je me dis que finalement, ce SmackDown, il est désormais totalement inclus dans le show WrestleMania qui est sur plusieurs nuits. Donc, il y est tellement sur plusieurs nuits que tu as même le SmackDown qui est avec et qui est en plus maintenant désormais le début du Hall of Fame, en fait, le SmackDown, vu que le Hall of Fame, il a déroulé dans la foulée. Donc, voilà, l'un dans l'autre, c'est... Ouais, ils auront eu 2 millions de personnes qui les ont vus, c'est déjà ça...
Oui, c'est ça. Mais bon, écoute, je pense aussi qu'il y a une histoire financière derrière ça. C'est-à-dire que s'ils ont donné comme ça l'appellation à WrestleMania SmackDown, c'était tout simplement pour que les catcheurs puissent toucher la prime. Parce que en fait, normalement, cette Battle Royale, elle était aussi conçue pour ça, pour mettre un maximum de gens dans la carte et pour que les mecs qui avaient bossé toute l'année, tu vois, aient droit à la prime WrestleMania-esque. Et du coup, voilà, ça a été mis à SmackDown et je pense que ça permet aux catcheurs de toucher un petit bonus et en pleine WrestleMania Week qui rapporte des millions and millions de dollars à la WWE, on va pas plaindre les catcheurs d'avoir droit à un petit bonus. Voilà. Ce SmackDown a continué après derrière d'entrée puisqu'on a enchaîné avec l'entrée de Ricochet tout de suite, mais qui allait être coupé après avec une chier de vidéos, entre autres sur le 2K22, sur l'Undertaker, sur différents trucs. On va voir Ricochet quand même après dans le ring qui est en train d'apprécier sa ceinture, et ce soir il a un match, il a le titre qui est en jeu et il est en handicap match, c'est-à-dire la stipulation favorite de Papy, et il va affronter...
Attends, je corrige, il est en triple, c'est un triple fret, hein.
Ah oui, c'est en triple fret, ouais, enfin moi je considère que c'est un handicap parce que il est face au Los Lotarios, qui est donc une tag team, et qui effectivement seront censés être adversaires dans ce match, mais moi je suis désolé, mais je considère que c'est un match, un handicap pour le Ricky LaBelle, que c'est scandaleux d'ailleurs. Mais, on va avoir droit à un vrai match de catch entre l'Américain et les deux Mexicains, les deux cousins. On va avoir un match de presque 12 minutes. Donc ça, c'était ma première agréable surprise, quitte à ce que le titre intercontinental soit relégué dans SmackDown de la veille, autant qu'on ait le droit à un match plutôt sympa. Et évidemment, ça va commencer avec Humberto et Angel qui vont faire équipe, hein, bien évidemment, contre Ricochet, qui vont s'allier. Angel va s'attaquer au genou, Humberto va s'attaquer au dos. Finalement, Ricochet va réussir à sortir Humberto et Angel avec un magnifique double Hurricanrana. Angel va réussir à quand même choper Ricochet pour le coller sur la corde supérieure et Humberto va essayer de lui casser le bras, hein, tout simplement. C'est immonde ce qu'ils font subir à ce jeune homme. Je suis absolument scandalisé. Et du coup, ça va être de belles factures parce que les mecs vont bien s'envoyer, mais petit à petit, ça va se désagréger entre Angel et Humberto parce que bah, tu sais ce que c'est, papy, quoi. L'appât du gain, l'appât du gold, l'appât du titre intercontinental va être plus fort que tout et l'investissement va être de plus en plus puissant entre les trois. Et ce qui devait arriver arriva entre Humberto et Angel. Il y a du gaz, il y a de l'eau dans le gaz, pardon, il y a de la friture sur la ligne et ils vont s'entendre de moins en moins, ce qui va profiter petit à petit au Ricochet. Humberto va tenter de monter pour exécuter une superplexe, mais il va être contré. Ricochet va se dégager, va envoyer Humberto au tapis et va grimper tout de suite pour placer le 630 et il va couvrir Humberto pour le compte de 3. Victoire de Ricochet qui conserve le titre intercontinental au bout de 12 minutes d'action. De bonnes bagarres, je dois le reconnaître, même si j'étais un peu chafouin sur le line-up, ayant beaucoup de mal à comprendre cette histoire avec Angel et Humberto qui affrontent Ricochet. Mais peut-être que Papy, qui est l'expertise fine, va pouvoir éclairer mes lumières.
Oui, alors je vais faire deux petites corrections, d'ailleurs j'en profite. La première que j'ai déjà faite en coupant comme un malotru ton déroulé, puisque c'est bien un triple fret, puisqu'à un moment les deux lotarios vont se faire des tombées l'un sur l'autre, donc on est vraiment dans une configuration triple fret, pas dans un handicap match. Et le finish, en fait, il fait ses deux finishers sur chacun des deux. Enfin, il fait son 630, là, je sais pas quoi, sur un des deux lotarios. Et en rebondissant, il rattrape le lotarios et il lui fait son finisher avec le genou, là. Tu sais,
son recoil.
Recoil, voilà. Donc, il finit son recoil et c'est après son recoil qui fait le tomber. Donc, en fait, il a enchaîné ces deux finishers en rebondissant sur les deux. Donc, c'est plutôt bien fait. Alors même si le recoil forcément il est un poil à côté, mais bon, en même temps c'était assez acrobatique comme manœuvre de faire le finish sur le rebond du finish précédent, quoi. Mais non, plutôt c'était plutôt sympa l'échange entre les trois. Ça a plutôt bien marché avec la foule en plus, forcément avec un face contre deux heels qui en plus normalement sont en équipe et donc ils ont fait toutes les crasses possibles et imaginables. Ricochet, bah pareil, hein, c'est là on parle des seconds couteaux de Mania. Qui se retrouve en pré-show SmackDown. Bah, j'étais étonné que le match soit si tôt. Je pensais vraiment qu'il serait en main event. Au final, on aura eu les deux matchs qui étaient annoncés directement pour démarrer le show. Je sais pas si c'est mieux, je sais pas si c'est moins bien. Là, je t'avouerai que j'ai pas d'avis défini dessus. Mais l'avantage, c'est que on n'a pas été noyé trop par les paquets de vidéos avant d'avoir ce match-là. C'est du coup, on était encore en forme. Mais c'était plutôt un moment appréciable, j'ai trouvé. Et puis voilà, ça. Ça reste des moments marquants pour lui. Il reste toujours fort Ricochet. J'espère pour lui que ça lui permettra l'an prochain d'être directement sur la carte de Mania. Faut pas désespérer. Puis voilà, quoi. On va y croire.
Bah alors moi je suis à la fois satisfait et à la fois déçu. Moi j'espérais que clairement ça allait être en main event. Quand j'ai vu en plus la bataille royale ouvrir le show, je me suis dit ah c'est cool et tout. Ricochet il va avoir droit au main event. Et bam, ils ont enchaîné derrière. Donc moi ça m'a un peu refroidi. Après, j'ai été réchauffé tout de suite parce que ouais, j'adore le bonhomme et que du coup, j'ai trouvé le match super qualite. Effectivement, t'as bien fait de donner la précision sur le double finisher, en fait, parce que oui, j'ai pas précisé qu'effectivement, il colle son recoil et d'autant plus spectaculaire, du coup, et ça faisait vraiment un truc sympa. Et puis, c'était vraiment cool qu'il conserve, quoi. J'aurais été vraiment hyper déçu, en plus, qu'il perde, comme ça, qu'il perde le titre juste avant WrestleMania. Donc, c'était plutôt parfait, mais moi j'aurais vu comment après le déroulé du show, moi c'est un peu le contraire, j'aurais vraiment vraiment préféré que le titre intercontinental clôture ce SmackDown, parce que comment ça s'est terminé, on va y arriver après, mais voilà, ça n'aura pas été un truc qui m'aura emballé des masses, quoi. En tout cas, l'info, c'est Ricochet conserve le titre intercontinental. Et là, on va rentrer dans un long tunnel de vidéo package à partir de ce match-là. On va revoir des images de la rivalité de Kevin Owens avec Stone Cold, des images du stade voilà, consacré à l'AT&T Stadium. On va revoir qu'est-ce qu'il va y avoir encore? Il va y avoir, pff, il va y en avoir un paquet. Voilà, il y aura différents vidéo packages qui rappelleront tout ce qui va se passer ce week-end. Derrière, on enchaînera avec un match de tag team féminine. Naomi et Sasha vont affronter Carmella et la Queen Zelina pour un non-title match, hein, il faut bien préciser. Un match qui va être très très court, hein, qui va durer 3 minutes. Ça sera vraiment, vraiment, vraiment expédié sur ce coup-là. C'est Carmella et Banks qui vont commencer, hein, sur le ring, qui vont se taper méchamment. Carmella et Zelina vont quand même pas trop mal travailler ensemble parce qu'elles vont réussir à garder Banks dans le ring, l'emmener dans le coin et faire différents tags pour pouvoir alterner. Zelina va même avoir droit à un petit near fall de deux. Finalement, Banks réussira à faire le hot tag sur Naomi qui va claquer d'entrée un double drop kick pour sortir Zelina et Carmella. Naomi derrière va connecter avec un moonsault et couvrira Zelina pour le compte de 3. Victoire de Sasha Banks et Naomi sous une ovation du public de Dallas qui était apparemment totalement ravi de voir les deux Afro-Américaines. Donc victoire de Sasha. Écoute, elles sont Sasha et Naomi, elles sont toutes les deux donc dans le Fatal Four Way de dimanche. Un match qui s'annonce de belle qualité. On en a parlé assez longuement dans la review des pronos, mais je crois que ce qu'on a vu là, malheureusement, c'était trop court.
C'était trop, je sais pas, c'est trop court. C'est trop court ou trop, parce qu'en fait, du coup, moi, mon prono de dire que c'est Naomi Saja qui ont gagné, il prend du plomb dans l'aile quand elle gagne la V contre les championnes. Je
Mais
dis, ah,
j'ai fait
bon,
le
c'est pas
même.
bon, ça.
J'ai fait le même.
C'est pas bon pour moi, ça. C'est bon pour mon prono. Bon, bah, je croise les doigts pour que ce soit une preview et non pas de comment ça s'appelle, anti-booking, là.
Du booking inversé.
Booking inversé, ouais, je ne sais plus le terme. Décidément, je suis pas encore réveillé. Par contre, je pense que même si le passage était court, ça a quand même fait plaisir au public qui était content de les voir, parce que on en reparlera peut-être à la fin. Mais le SmackDown d'avant Mania, de toute façon, il n'y a jamais quasiment aucune star quoi, qui est là. Donc le fait qu'elle soit là, qu'elle catche un petit peu, je pense que c'était déjà comment dire, c'était déjà bien pour le public. Elles peuvent pas forcément faire un match de fou parce que si elles se blessent pour le lendemain, c'est cuit. Donc moi j'étais déjà étonné qu'elle catch en fait et donc quelque part bon, c'était un bon petit cadeau même si forcément c'est un petit match de catch mais de toute façon ce SmackDown là j'attends absolument pas de catch hein.
Ouais, bon, non, mais je t'avoue que je me faisais pas beaucoup d'illusions non plus, hein. Je joue les grognons parce que j'espérais quand même avoir un show un peu plus lumineux. On est dans le stupendous, on est dans le prodigieux, là on est même plus dans le monde merveilleux du show bleu, on est dans le monde prodigieux et bon. 3 minutes, c'était un petit peu. Par contre, ce qui était bien, c'est que ça m'a permis de vérifier que Naomi était quand même vachement over aussi. Parce qu'on parle de Sasha dans cette team, mais finalement, je vois que la réaction sur Naomi, c'est Naomi qui a le droit au pin, hein, le pinfall sur Zelina. Et j'ai oublié de préciser aussi qu'autour du ring, il y avait les deux autres équipes concernées, hein, Shayna et
Oui.
Natalia, et Liv et Rhea qui observaient le déroulé des opérations. En tout cas, victoire de Naomi et Sasha. Derrière, on va avoir droit, au-delà de vidéo, on aura surtout droit à une petite promo, hein, de Charlotte, en mode championne de SmackDown qui fait son apparition sous les Sunlight et qui va nous expliquer que peu importe, hein, finalement la menace de Rosie, à WrestleMania, elle va la détruire, elle va énumérer un peu toutes ses réussites à la WWE et elle va montrer, elle va jurer qu'elle va prendre Rosie à l'école de WrestleMania tout en tenant sa ceinture bien haut. Voilà, il se passera rien de spécial de plus, hein, pour le title main event du côté des femmes.
Non, mais c'est déjà encore une fois, hein, le fait que Charlotte soit là, c'est déjà un cadeau finalement. Et elle fait une promo où elle un peu dans la lignée de ce que nous aurons fait Reigns, Lesnar, Owens le lundi. C'est une promo wattée où elle a dû gérer les watts en permanence et je trouve qu'elle a super bien géré, elle a assuré le truc. Ronda n'était pas là, elle était en train de faire de la bagarre avec Shayna dans son camp personnel. Et donc, du coup, bah, c'était un des rares passages live qu'il y avait du soir. Et Charlotte s'en est plutôt bien sortie, j'ai trouvé.
Ouais. Ronda, elle sera interviewée par Kayla Braxton sur le ring. Où, voilà, elle va répondre de toute façon la même chose à l'adversaire. Elle va la démolir samedi. Hein, c'est samedi, hein, Ronda et oui. Charlotte. Donc elle va la démolir aujourd'hui. Donc voilà, donc elle annonce la démolition en règle de notre amie Charlotte. Rira bien, qui rira la dernière. Et on aura aussi, d'ailleurs, après ces promos, on aura aussi encore un long vidéo package consacré à Ronda et Charlotte, où on reverra quasiment l'intégralité de leur rivalité. Donc c'était, voilà, on aura eu tout ce qu'il faut. Derrière, on aura vidéo package. Alors là, gros vidéo package, bien sûr, assez long, hein, je crois qu'il va durer plusieurs minutes contre sur Brock Lesnar et la tête de la table. Et après, on va avoir un match, un single match, un one-on-one, et qui va être une sorte de preview, comme pour Naomi, Sasha Banks et Carmella Queen, sauf que là, ça sera un contre un, donc, puisque Jimmy Uso va affronter Rick Boogs, accompagné de Nakamura. Bien sûr, la Bloodline, elles sont ensemble, et ça va être un match qui va être comme le précédent, qui va durer 3 minutes. Jimmy va commencer d'entrer en poussant Boogs contre le poteau du ring. Va commencer à faire des avalanches un peu en mode Rikishi. Ça va trash-talker un petit peu, quoi. Mais ça va permettre justement à Boogs de se rattraper et de claquer son follow-away slime. Austin Theory va débarquer sans qu'on lui ait rien demandé afin de venir un peu emmerder Pat McAfee et Finn Balor qui est là. Du coup, Theory est sur le ring et va commencer à McAfee va commencer à se battre avec Theory sur le ring et l'arbitre va faire sonner la cloche et va demander une disqualification. Enfin, moi j'ai pas trop compris si c'était un DQ ou un no contest. Bref, ça, cette affaire-là va durer que 3 minutes et bah écoute, on est en mode Teddy Long Tag Team Baby. Six-man tag team match, comme Finn Balor était resté dans les environs, et ben on va l'allier à Nakamura et Boogs, et ils vont affronter les Uso et Theory. Et là, pour le coup, on va rentrer dans un vrai match, puisqu'on va rentrer dans un match de 11 minutes 30, où là, ça va plus être la même limolade, quoi, ça va être un peu plus compétitif. J'avais oublié de préciser, parce que je crois que c'est avant, j'ai dû me tromper dans la chronologie, puisque Pat McAfee va se retrouver, hein, tu me diras, papy, mais c'est ça, hein, il va se retrouver, il va courir après, après Theory.
Ouais, si je peux me permettre, en fait, ouais, il y a Theory, il va intervenir deux fois. Une première fois pendant l'entrée de Nakamura.
Ouais.
Il profite, en fait, d'entrée de Nakamura où McAfee est debout sur la table pour arriver et le faire tomber de la table.
Ouais, c'est ça.
À ce moment-là, donc, du coup, McAfee course Theory et jusque dans les vestiaires où, en fait, Theory se cache une nouvelle fois dans le bureau de McMahon. Donc, du coup, McAfee se dit, oh, bah, on me l'a déjà fait la dernière, je peux me faire avoir. Et il défonce la porte, et puis derrière, t'as Miss McMahon qui sort en furie en disant, putain, mais qu'est-ce que t'as fait de ma porte? T'es ouf, toi? Et donc, du coup, ensuite, t'as McAfee qui revient tout penaud en disant, bon, bah, ok, si je joue en match à Mania, il faut plus que je bronche désormais. Et pendant le match, tu as de nouveau Theory qui vient et qui balance un verre d'eau à McAfee. Donc, McAfee, pareil, il saute de son ring pour aller le choper. Et c'est en essayant de se barrer, encore une fois, que Theory tombe nez à nez avec Balor qui l'attendait au bout de la rampe. Et c'est ce qui finit après par l'entrée sur le ring et le no contest. Voilà.
Oui, mais que Pat McAfee qui gueule à Finn Balor, kick his ass, kick his ass. Voilà. C'est énorme. Ça c'était bien. C'était un des trucs que j'ai peut-être préféré d'ailleurs dans l'histoire aussi de Theory, Pat McAfee depuis le début. Et j'ai trouvé que c'était bien foutu. Et après derrière, il se retrouve sur 6 matchs. Ouais, il lui jette le verre d'eau en fait. Et c'est Finn Balor qui sort du diable Vauvert sous le titan tronc, quoi, et qui vient botter le cul à théorie, quoi, pour revenir sur le ring. Donc ça c'est bien, et après ça se transforme en six men tag team match, et le match va être, le trio match va être plutôt sympa, quoi, et va durer 11 minutes 30 avec un Nakamura qui bosse comme jamais, avec un Pat McAfee qui est debout pendant tout le match, et dès que Austin Theory est au milieu du ring, il harangue la foule, et il souhaite évidemment que Nakamura et compagnie en mettent plein la tête, et Nakamura et Boogs et tout vont bien bosser, ça va taguer avec il va y avoir de belles alternances, et d'ailleurs Theory va être isolé longtemps, hein, longtemps dans le ring par les trois babyface, quoi, et va se prendre une série d'ATMI de la part de Finn Balor, va être envoyé dans les cordes, bref, il va manger cher, et tout ça sous les acclamations de Pat McAfee en permanence, qui va le trash-talker à gogo. Finalement, les Uso vont enfin rentrer dans le ring, et en particulier Jack, il va s'attaquer à Finn Balor avec un gros stomp, il va mettre un super kick à Rick Boogs pour l'éliminer à l'extérieur du ring, il va ensuite venir un peu taunter notre ami Nakamura qui lui répond « Ouais, non, mais vas-y, dépêche-toi, parce que moi, je veux aller faire un golf après.
Du surf, du surf.
Voilà, ou du surf, au choix, quoi. Et, mais finalement, contre de Baylor qui va tenter le hot tag avec Nakamura. Hop, petit roll-up de notre ami Uzo qui va pas marcher. Nakamura va chauffer la foule et ça marche plutôt pas mal. Va avoir le hot tag, va rentrer, va se retrouver face à Austin Theory. Austin Theory va mettre un drop kick qui va mettre au sol le truc. Et mais il va aller se réchauffer avec Pat McAfee. Pat McAfee va monter sur le ring pour un face-to-face. Theory, il est ravi. Il lui dit, vas-y, allez, vas-y, viens, tu vas voir, ça va chauffer, quoi. Et là, il y a Michael Cole qui va venir intervenir, en fait, auprès de Pat McAfee en lui disant, non, mais vas-y, il faut te calmer, etc. Enfin, Michael Cole en médiateur, mon papy. On est plus dans l'attitude des rats, hein.
Ah non, mais c'était drôle parce qu'en fait, tout le monde était Michael Cole, et lui était mort de rire du coup parce que il joue la comédie, mais bon, en même temps, je pense que ça fait la fête pour tout le monde, donc quelque part, il doit être tellement content qu'il prenne du plaisir dans ces moments-là. Je sais plus si du coup t'as le finish, mais le finish c'est.
Ouais, j'allais y venir en fait, mais je faisais une interruption par rapport à ce qui s'était passé avec.
Ouais, Michael, je vais finir alors, vas-y.
Bon, en fait, là, on était sur la fin parce que au final, tout ça avait profité à Austin Theory, hein, qui est bien, qui est dans un bon momentum, hein, moi je trouve. Hein, tu vas m'en dire ce que t'en penses, quoi, mais j'ai l'impression qu'il est dans un bon momentum, en tout cas le jeune là. Et finalement, les Ouzo vont créer une distraction, hein, qui va permettre à Theory tout simplement de passer son finisher et de couvrir pour le compte de 3 Finn Bálor, le champion US, hein, quand même. Hein. Alors peut-être que ça, c'est un petit indice aussi au passage. Peut-être qu'on va aller vers une feud Theory Bálor, ça serait pas mal parce que Bálor est totalement installé en babyface actuellement, Theory est totalement installé en heel, donc why not, et du coup victoire de Theory dans ce, enfin victoire du trio Uzo Theory face à Nakamura, Books et Bálor.
Et bon, alors les deux en fait pour moi c'est à la fois une petite piste pour la suite. Et je pense aussi que c'est de toute façon ils n'avaient pas trop le choix parce que dans les participants sur les 6, il y en avait 5 qui étaient sur la carte de Mania et un qui n'y était pas. Donc ils ont fait perdre celui qui n'était pas Mania. Ça me semble pas totalement ubuesque comme choix. Et donc c'est Finn qui a pris le pin. Ouais, j'ai trouvé le match plutôt plaisant. Les interactions avec finalement les deux feux de croisée plutôt sympas, notamment toutes les interactions théorie McAfee là, qui ont donné du rythme au bousin, et je trouve que c'est Books qui est toujours montré ultra ultra fort, il fait des séries de bis là en soulevant les gars dans un sens dans l'autre, les Ouzo qui doivent faire plus de 100 kilos, ils les soulèvent comme de petites tailles, donc voilà, j'ai trouvé que pour le coup c'était finalement le seul truc de la soirée qui allait finir de typer pour WrestleMania, c'était le seul segment et il était plutôt bien fait.
Ouais, moi j'ai trouvé plutôt le match plutôt sympa et tout ça, quoi. J'ai trouvé l'interaction McAfee, Michael Cole Theory réussie, j'ai trouvé la mise en avant du jeune réussie. Enfin, moi globalement, tu vois, j'ai trouvé que c'était tout un ensemble là qui était plutôt pas mal, quoi. J'ai juste une inquiétude, mais heureusement qu'elle a duré 2 secondes, ça a été au moment de la fin du les 3 minutes, quoi, entre Uzo et Books, quoi, et je me suis demandé, ah non, ça va pas se terminer en autre boudin comme ça, puis ça va s'arrêter là-dessus, puis non, en fait ça a été bien relancé, c'était comme il fallait, donc non j'ai que du bien à dire sur ce segment là, quoi. Après, écoute, on terminera un ou deux petits packages vidéo avec et les annonces. Et on termine ce SmackDown par un Happy Talk. On va retrouver Madcap Moss et Happy Corbin sur le ring, qui sont bien sûr hilars et ravis de ce qui s'est passé précédemment avec la victoire de Madcap Moss dans la Battle Royale. Moss, bien sûr, va célébrer sa grande victoire, hein, mais Corbin va quand même le couper assez vite pour tout simplement parler de sa victoire à lui dans la Battle Royale de WrestleMania 32. Et tout d'un coup, il va nous brandir l'épée qu'il a volée à McIntyre à Monday Night Raw cette semaine. Alors qu'il y a une vidéo d'ailleurs qui est diffusée pour rappeler le moment. Hein. Et Corbin va faire allusion au fait que l'épée porte le nom de la défunte mère de McIntyre et va faire une blague sur le fait que McIntyre a perdu à la fois l'épée et sa mère. le truc qu'il fallait pas faire avec la blague traditionnelle évidemment de Madcap Moss, mais là c'était le truc qu'il fallait pas faire parce qu'il y a un McIntyre en mode furie, en mode psychopathe écossais qui débarque de manière furieuse sur le ring, qui va détruire Moss d'un seul coup de poing et qui va entrer sur le ring avec la chaise. McIntyre va fracasser la chaise sur Corbin, va reprendre son été, va la balancer sur Corbin, qui va arriver juste à l'esquiver et à s'échapper du ring. Célébration du babyface écossais. Alors, j'ai envie de dire que Drew respecte les traditions et qu'on termine un peu un SmackDown avant Mania avec un peu une bagarre, mais vraiment une petite bagarre quand même, quoi. Hein, ça n'aura pas été bien méchant. Alors, un Drew McIntyre magnifique en Marcel, en hommage à Brody Lee ou à Luke Harper, Gene et Marcel. Mais quelle impression physique il donne, le Drew McIntyre. Il va fracasser d'ailleurs la table du Happy Talk à coup d'épée, aussi pour bien faire comprendre que qui c'est le patron. Et c'est comme ça que va se terminer ce SmackDown. On termine juste avec il y aura la présentation en fait tout simplement par les deux commentateurs avec tous les matchs des deux nuits et c'est comme ça se terminera ce WrestleMania SmackDown, mon papy.
Yeah, sur une ultime confrontation sans prendre de risque, avec aucun coup donné, quasiment que de l'évitement et de la poursuite et de la montée de puis de la montée de pression sur la rivalité McIntyre Corbin. De toute façon, c'est l'histoire hein, qui nous a raconté depuis des semaines, des mois, que Corbin s'échappe toujours. Et ben, dimanche, je crois, je ne sais plus si c'est samedi ou dimanche. Enfin, ce week-end, en tout cas, il ne pourra pas s'échapper. Et puis, on verra ce que ça donne. Moi, j'aurais bien aimé que, du coup, ils en profitent pour nous faire un truc en cash, parce que ça aurait été dans le sens de l'histoire, quoi. Mais bon, on se contentera de cette rivalité qui devrait mettre un point, de cette confrontation qui devrait mettre un point final à cette rivalité.
Oui, c'était certainement les dernières interactions entre ce soir et WrestleMania, donc je pense aussi que ça va se terminer comme ça. Eh ben écoute, papy, ainsi s'achève ce 1180e Friday Night SmackDown, et tu vas pouvoir nous donner ton top flop nop. Alors, peuple de catch-up, on n'en a pas parlé, mais sachez que quand même le Go Home Show de Monday Night Raw, reviewé par papy et El Patron, était une review historique dans l'histoire de catch-up, puisque c'était tout simplement la 900e vidéo depuis la création de catch-up en 2016. Et que donc là, ce Friday, c'est le 902e, puisqu'on a fait une autre vidéo dans l'intervalle. Donc voilà, bravo, 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 quoi. Donc un top flop note qui vient de passer la barre des 900.
Ah, ça rigole pas, ça rigole pas, le mot de la fin, là.
On va passer les... Ah, et puis, juste, je coupe un instant, mais vas-y. Quand même, pour mesurer le truc, imagine quand même qu'on va passer la barre des 1000 cette année en 2022, quoi. La barre des 1000 vidéos, quoi, des 1000 contenus.
Ah, il faut qu'on continue alors du coup, hein. Faut pas qu'on arrête parce qu'on allait annoncer que c'était le dernier review qu'on faisait, mais non, du coup on continue, on va faire WrestleMania alors, c'est ça que tu nous dis. Non, ouais, mais ouais. D'accord, bon bah si c'est ça, on va se forcer, on va faire WrestleMania les gars, vous pouvez continuer à nous écouter. Mon top flop note, bon c'est toujours particulier, hein. je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est SmackDown de pré-WrestleMania. J'ai envie d'être plutôt tolérant avec ce show-là parce que je me souviens des années où c'était carrément des shows enregistrés où il y avait rien en fait. C'était que des paquets de vidéos avec deux gars qui étaient en coulisses et qui faisaient juste le pimpin en nous disant « Et voici le match du machin, l'arrivée des bidules !» Hop, hop, et tu voyais, ça déroulait. Là, t'as quand même un petit peu, ils ont quand même essayé de faire plaisir un peu à la foule avec deux, trois gars qui ont pointé leur nez. Donc bravo à ceux qui sont venus. C'est toujours un plaisir de voir les gars qui, même la veille de Mania, vont jusqu'au bout faire le pro. Mais tu vois aussi qu'il y avait très peu de gens parce que des mecs comme Baylor, comme Madcap Moss ont fait double soirée avec deux segments. Et aussi, j'ai aussi envie de les féliciter. Du coup, voilà, moi je vais. Alors au début, je pensais mettre mon top pour le dernier match tag team, qui j'ai trouvé bien sympa, mais finalement, je vais le donner à ceux qui ont essayé de faire vivre la soirée, qui est difficile à booker finalement à SmackDown. Donc je vais donner un co-top à Madcap Moss et à Finn Balor pour leur investissement dans ce SmackDown si particulier que le SmackDown de pré-Mania. Mon flop, je pense que je vais te rejoindre en le donnant à la bataille André le Géant, non pas pour le vainqueur, mais vraiment pour le contenu où ils sont pas fait chier, quoi. Ne fait même pas 10 minutes, ils auraient quand même pu faire un petit effort de la rallonge d'un poil, quoi. Et ma note, ouais, je vais. Dans ces cas-là, moi, je je veux pas m'embêter, je donnais le minimum. Pour un bon show, je donnais un 3. Voilà, c'est pas. Ça s'est regardé jusqu'au bout, en accélérant les passages vidéo, parce que vu qu'on s'est retapé en intégralité pendant la WrestleMania, le reste était quand même plutôt sympa.
Ok, un 3. Eh bien écoute, moi de mon côté, ce que je vais faire, c'est que je vais donner le top flop sur le même segment. C'est-à-dire que je vais donner mon top au match intercontinental entre les Los Lotharios et Ricochet. Et j'ai trouvé ça un super match. C'était super bien. Super content que Ricky garde le titre intercontinental. Il mérite, moi je trouve qu'il est pas assez exploité ce garçon. Je sais pas, on sait même pas s'il a progressé au micro parce qu'il en fait quasiment jamais. Donc voilà, mais moi je suis convaincu et je resterai convaincu jusqu'au bout que ce garçon il a un potentiel incroyable. Il est hyper over, j'ai trouvé que là encore ce soir là, il était hyper over auprès du public de Dallas. Et donc je pense qu'il faut en faire quelque chose et j'attends de voir ce qui va se passer à ce niveau-là. Mais je leur donne mon top pour le match réalisé. Et par contre, bah, de l'autre versant, je vais donner mon flop en même temps à avoir installé ce segment comme ça en deuxième match derrière la Battle Royale qui était médiocre. Et vraiment, ça aurait pour moi mérité le main event. Finir un happy talk par un happy talk comme ça, bah ouais, ok, d'accord, mais pour moi, ça c'est un segment de milieu de show. Enfin, c'est de la mid-card, c'est vraiment je hyper déçu de finir un SmackDown de WrestleMania comme ça avec Happy Corbin et tout ça. J'ai beau adorer le Drew McIntyre, ok, mais moi j'aurais préféré qu'on termine sur un feel-good moment avec Ricky qui clôturait le show avec la ceinture bien en haut. Mais voilà, ça m'a déçu quoi. Ça m'a vraiment déçu que c'est pas le droit au main event quoi. Et puis ma note, ça va être un 3. Ma note, je sais pas, je suis embêté quoi. Oui, parce que je suis d'accord sur tes arguments sur le fait qu'il y a eu des années où on a eu droit à des trucs enregistrés ou carrément des best-of ou des trucs comme ça. Donc là, au moins, ils font quand même l'effort de booker un show, ils font apparaître tout le monde, etc. Donc c'est notable. Je peux pas dire le contraire. Ça serait être malhonnête. Tu es mon papy à moi, alors je vais te suivre. Je vais mettre un 3 comme toi, comme ça. Voilà, on est à l'équilibre, quoi. La tag team partner of the day. On est à l'équilibre et puis je vais mettre un 3. Également. Eh ben écoute, voilà papy, on est arrivé à la fin de ce WrestleMania SmackDown. Je vous rappelle en ligne le Go Home Show de Monday Night Raw. Si vous êtes un peu à la bourre sur vos pronos, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez tous les spoilers de WrestleMania, on est là, puisque vous avez the most stupendous preview et pronostic de WrestleMania qui est déjà disponible en ligne, en une triple frite avec moi-même, Papy Anti-Atémi et El Patron Irem, qui a fait d'ailleurs une prestation remarquée hein, lors de cette preview,
Ah
mon
ouais.
cher Papy. Hein.
Ah, le pauvre, il est toujours. Bah, en fait, le truc, c'est qu'il s'est coincé le dos, du coup, en étant assis par terre. Donc, il est toujours assis par terre, là, près de son petit mur. De temps en temps, les gens viennent le nourrir, lui donner un petit peu d'eau. Mais pensez au patron, là, qui s'est tué pour enregistrer ses pronos.
Exactement, une performance hors du commun. Et ben voilà, écoutez, peuple de Catch-Up, tout simplement pour nous rejoindre, vous pouvez rejoindre la communauté Catch-Up sur le Discord. Tous les liens sont dans la description des vidéos YouTube ou même d'ailleurs des vidéos des bonnes plateformes de podcast qui accueillent Catch-Up. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Apple Podcast, Podcloud, Spotify, Deezer, Google Podcast, les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram, le site officiel catchup.lepodcast. .fr. Il ne me reste plus qu'à remercier mon tag team partner gériatrique of the day, l'insubmersible papy. Merci, papy.
Merci à toi, tonton, pour ta disponibilité, ta présence, ton enthousiasme pour ce SmackDown très WrestleMania. Là, ça y est, là, dans quelques heures, ça démarre. Là, on a Takeover qui va démarrer dans quelques heures. Dans la foulée, WrestleMania, là, c'est bon. Là, on est parti, là.
Donc là, t'es chaud, comment tu vas faire? Tu vas regarder en direct ou tu vas décaler en regardant le lendemain matin? Comment tu
Alors,
t'es organisé?
c'est organisé, c'est un peu compliqué parce que le takeover, je ne suis pas dispo à 19h, mais il est à 19h française, hein, pour rappel, pour ceux qui nous écouteront, je pense que ça sera déjà démarré, c'est pas grave. Là, justement, j'ai calé une petite sieste pour essayer de récupérer l'énergie. Je vais tenter la première nuit en direct et puis voir ce que ça donne, quoi. Si j'arrive à tenir, j'enquillerai comme c'est la deuxième.
Ouais, ça peut être pas mal ouais, comme ça dans ce sens-là. Ouais. Et après sur, bon, on en a parlé pendant les pronostics et tout ça quoi. Mais bon, le match là que tu vas attendre le plus, on va dire si tu devais en sortir qu'un seul quoi.
Ah, un match où j'attends le plus. Bah moi je reste sur mon Bianca versus Becky. Moi c'est je sais pas pourquoi j'ai envie de se voir ce match depuis qu'ils ont commencé la rivalité, et donc bah je l'attends vraiment avec une grande impatience.
Ouais, ça risque, ouais. De toute façon, les deux matchs féminins pour moi vont être dessus de super qualité, etc. Ouais, j'avoue que
T'es surpris, toi.
basiquement, moi je suis hypé par l'énorme main event, quoi, par le Brock Lesnar Roman Reigns, quoi. J'avoue que vraiment, ça c'est un truc, ça va être totalement incroyable, quoi. J'attends un truc assez fantastique, quoi. Mais moi je reconnais que, en fait, là, cette carte, elle fait un petit peu les montagnes russes. Il y a des trucs que je trouve fabuleux, et puis il y a des trucs qui m'intéressent pas plus que ça, quoi. Mais c'est pour ça que je trouve que l'idée est bonne de faire deux nuits, quoi. Parce que je pense qu'effectivement, sur une nuit, avec certains matchs de mid-card ou digne de weekly, ça aurait peut-être été un peu indigeste. Alors que là, je pense que ça va permettre d'avoir quelques respirations.
Ah, carrément, oui.
Et que du coup, quand on va arriver sur les gros matchs avec les grosses ceintures, eh ben, je pense qu'on sera dedans, quoi.
Ouais, espérons, espérons. Puis il y a plein de matchs en fait où j'essaie de pas trop. Là, bon, cette année, j'essaie de me faire aucun film dans la tête à l'avance. Comme ça, je vais être totalement dispo, totalement surpris, totalement bien surpris. Et par exemple, pour la surprise pour Seth Rollins, j'imagine rien. Le Brock Lesnar versus Reigns, j'imagine rien. Comme ça, on se laisse totalement prêt à être surpris par ce WrestleMania qui s'annonce stupendous.
Ah ouais, ça s'annonce stupendous, c'est clair. Tellement stupendous que j'en ai coupé d'ailleurs tous les réseaux, machin, etc.
Voilà.
Le Twitter de Catch Up, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai mis que la page d'accueil de Catch Up en favori pour pas tomber sur un truc par accident. Tu vois, pour pouvoir quand même balancer la promo. Mais là, je sais que depuis 2 jours, j'ai tout coupé, je voulais lire aucun dirt sheet et tout ça. Surtout en plus avec le fait du match mystère avec Seth Rollins, etc. Tu vois. Donc là, il n'était pas question de se faire gâcher la fiesta. Moi, les matchs, en général, je vais les regarder le lendemain matin. Mais tôt, et je sais pas, j'ai le même un peu le souci que toi, j'ai le même au niveau de Stand and Deliver, ça va être finalement le pay-per-view le plus compliqué à regarder ce week-end, quoi.
Oui,
Donc,
oui.
euh, donc, donc je vais voir comment je vais m'organiser à ce niveau-là. Mais en tout cas, la hype est là, je suis impatient, c'est le plus grand week-end catch de l'année. Il s'est passé déjà pas mal d'événements sur la WrestleMania Weekend, WrestleMania Week dans son ensemble. Hier soir, vendredi soir, il y avait donc la Super Card of Honor, qui était le premier pay-per-view de la Ring of Honor booké par Tony Khan. Il y a eu plusieurs autres fédés qu'on fait pas mal de choses, etc. Donc c'est toujours vachement intéressant. C'est l'occasion aussi d'y découvrir des mecs des fois. Donc tu vois, voilà, ouais, j'adore ce passage-là de l'année, quoi. C'est un des grands moments pour nous les fans de catch et un des rares moments aussi où c'est assez mainstream finalement, où
Oui.
WrestleMania va être évoqué un peu dans d'autres médias que dans nos médias traditionnels que nous on suit en tant que fans de catch.
Ça, et puis du coup, comme tu l'as bien dit, c'est un peu la semaine où tout le monde du catch va manger finalement sur la puissance de WrestleMania. Et donc, c'est l'occasion pour tout le monde de se montrer et de faire son petit show, tout ça. C'est vraiment. Et puis en plus, il y a les fans du monde entier qui sont rassemblés aux États-Unis. Donc, j'ai l'impression. J'ai pas trop fait gaffe, mais j'ai l'impression que du coup les autres, et c'est aussi peut-être pas l'autre problème du Texas, parce qu'ils disent c'est là où il y aura le The Place to Be. Et donc pour les gens de là-bas, fans de catch, c'est un grand moment parce qu'ils doivent en manger vraiment dans tous les sens.
Ouais, exactement, ouais. Je suis totalement d'accord. Et puis qu'ils en profitent. On a par exemple, tu sais, il y a les deux jeunes Français là, qui partent quasiment à tous les WrestleMania, à tous les Royal Rumble et tout ça, qui font même des interviews maintenant. J'ai vu des superstars de la WWE. Enfin, ces deux jeunes qui sont en train de rentrer en fait dans le sérail, je pense, des médias, catch, etc. Et qui font des voyages incroyables et qui partagent ça un peu sur les réseaux et tout. Bon bah voilà, les gars prennent des étoiles plein les yeux, hein. C'est vrai que c'est un accès. Alors on n'en a pas parlé, mais juste un tout petit mot là-dessus, mais ils ont inauguré pour le WrestleMania Access une statue pour l'Undertaker, pour son intronisation au Hall of Fame. À la sortie de ce WrestleMania SmackDown, il y a eu la cérémonie du Hall of Fame qui a eu lieu. Alors j'ai pas la liste en tête, hein, mais bon, il y avait les Steiner, il y avait ceux qui étaient annoncés, quoi. Mais surtout, vous le savez, la tête de la table dans ce Hall of Fame, le headliner, c'était tout simplement l'Undertaker. Et donc l'Undertaker a eu droit à une entrée assez majestueuse avec Vince McMahon sur le ring qui a prononcé le discours, etc. Il y avait les différents gears des différentes époques, des décennies de l'Undertaker. qui était comme ça autour de McMahon. L'Undertaker a fait une entrée avec un costume assez incroyable et avec une natte derrière et tout ça, et a fait un super discours. Et mon papy, l'Undertaker, s'est permis de prononcer la phrase qui tue, c'est-à-dire ne jamais dire jamais, à l'idée d'un dernier match. Donc, t'imagines un peu la réaction du public, quoi. Et donc, on a senti un Mark Calloway en pleine forme hier soir.
Yes, c'est ne jamais dire jamais. Et d'ailleurs, ça sera en Arabie Saoudite. Dans ces cas-là, mieux vaut dire jamais. Hein, Marc, Marco, si tu l'écoutes.
Ah oui.
Non, non, non. Hein.
Ah oui, alors là, on est totalement d'accord. Hein. C'est clair qu'il n'en est pas question si c'est pour nous annoncer, parce que tout ça, on lui propose 5 millions de dollars pour aller catcher à Riyad. Il n'en est pas question, Marc. Il n'en est pas question. En tout cas, félicitations à tous les nouveaux Hall of Famers de la QV 2022. Voilà, peuple du catch-up, on vous laisse sur ces bonnes paroles. On vous souhaite un week-end de WrestleMania monumental. On vous encourage à rester sur notre antenne pour venir écouter toutes les reviews, tout ce que vous pourriez avoir manqué au cours de ce WrestleMania week-end. On vous fait des bisous, on vous fait des cordes à linge plein la face. Salut papy.
Salut tonton, salut à tous et bonne WrestleMania week-end à tous.
Salut peuple de caché. Le sourire de Vince. Quand l'Undertaker a dit « Never say never ».
Bah, hey, il a vu les dollars, hein.